Voilà, on touche les petits singes, ils sont tout doux, ils sont tout petits. Hein. Ils font un petit peu pitié comme ça, parce qu'ils sont séparés de leur mère qui a été tuée. Et puis Dana a un nounours pour les rassurer. Voilà. Et il y a une petite couverture par terre où c'est marqué bébé.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, nouveau voyage, nouvelle destination cette semaine. On vous amène avec Stéphane Herzog et ses reportages dans le nord-est du Pérou.
Bon, on est arrivé à Moyobamba. Donde somos aquí?
Estamos en Moyobamba, ciudad de las orquídeas en Perú.
Ah, c'est la ville des orchidées. Hein.
Ajá, Moyobamba se considera la ciudad de las orquídeas porque tiene hermosas flores y hermosas mujeres.
Ah, y hay de très belles fleurs y hay de très belles femmes.
Claro,
mujeres.
Sí.
¿Ustedes de Moyobamba?
Claro, el que diablo es moyobambino.
Ah, claro. Il est venu enfant. Bon, voilà, on est arrivé à Moyobamba après 2 heures de route, un peu plus. On a pris un mototaxi. Le soleil se couche, mais il est encore très chaud. Et on arrive devant la calle Junín. Comment se dit Junín?
Girón Junín
101, qui en principe est la maison de Hélène Colong. Donc voilà, il y a plein d'arbres partout et on voit quelqu'un qui arrive. Et voilà, on descend de notre rickshaw à deux places.
Arrivé à Moyobamba, au nord-est du Pérou, donc un Pérou qui est peut-être un petit peu plus étranger, un peu moins connu que le Pérou de Lima, la capitale, ou celui des Andes, des Incas et du lac Titicaca. Ici, c'est le Pérou de l'Amazonie, la région du Loreto pour être précis, une immense région d'ailleurs, 60% du territoire péruvien, et qui s'étale du pied de la cordillère jusqu'au Brésil, jusqu'à la Colombie et à l'Équateur. Beaucoup de forêts, beaucoup de marécages, beaucoup de rivières dans cette région, des rivières qui se jettent toutes d'ailleurs dans l'Amazone, beaucoup d'animaux, des singes, des serpents, des jaguars, des oiseaux, des crocodiles, et puis quelques villes comme Iquitos, comme Yurimagas ou encore comme Moyobamba où on est aujourd'hui. Où commencent vos carnets de route, Stéphane Herzog? Elle ressemble à quoi cette ville?
Moyobamba, c'est une ville d'environ 50 000 personnes qui se trouve à 1000 km à vol d'oiseau de Lima. Et c'est une ville de pionniers, avec passablement de gens qui descendent des Andes, donc des Quechua, les descendants des Incas, et qui peuplent cette ville, qui est entourée par pas mal de champs, où il y a de la culture de coton, de café, de cacao. Et on dit que c'est aussi une ville de contrebandiers, avec du trafic de pâtes de coca, du trafic de bois, notamment, et aussi du trafic d'animaux. Donc c'est un lieu stratégique pour la défense de la forêt et de sa faune.
Entre l'Amazonie et la cordillère des Andes.
Voilà, en fait, allant d'ouest en est, on a d'abord effectivement les plateaux désertiques en fait, de la côte du Pacifique. Ensuite, on a les cordillères, les trois cordillères, et la dernière étant la cordillère orientale, la cordillère bleue. Et ensuite, on a les derniers contreforts des Andes. Et Moyobamba se trouve en fait dans une vallée qui est la vallée du Mayo, de l'Alto Mayo, du Haut Mayo. Et ce sont les derniers contreforts des Andes avant que d'arriver, de rejoindre le bassin amazonien qui lui se trouve à 80 mètres d'altitude environ, alors qu'à Moyobamba on est encore à 800 mètres et on est dans le lieu de la forêt de nuages.
Et donc c'est là où commencent vos reportages. On va tout au long de cette semaine descendre, aller dans cette forêt amazonienne jusqu'à Lagunas, ce sera vendredi. Qu'est-ce que vous faites dans cette ville? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette région?
Donc on est dans cette région parce qu'on vient rencontrer une femme qui s'appelle Hélène Colong et son mari qui s'appelle Carlos Palomino. Donc ce couple de militants environnementaux ont créé une association de défense de la faune, de reforestation et de protection des singes. Donc c'est ce qui nous a amené à Moyobamba, qui est la ville où ils se sont installés.
Oui, parce que la forêt péruvienne, comme toute la forêt amazonienne d'ailleurs, elle est menacée, on le sait, selon une étude du Programme des Nations Unies pour le Développement qui est sorti en janvier de cette année, 17% de la forêt amazonienne a été détruite entre 2000 et 2005. 17% en 5 ans, une surface comparable au Venezuela, 20 fois la Suisse, toute cette surface d'arbres partis en fumée ou rasés, tout cela pour l'exploitation agricole et puis aussi pour s'approprier les immenses richesses et réserves de ressources naturelles de cette région. On verra dans vos reportages, Stéphane, les menaces que cette déforestation fait peser sur la biodiversité et la faune de cette Amazonie péruvienne, notamment sur les singes. Claude Auroy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ici à Lausanne. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, notamment du changement politique, social et économique. Ça fait 34 ans que vous vous rendez au Pérou, où vous avez développé des projets agricoles, vous avez enseigné au Pérou, vous y avez vécu aussi entre 83 et 87, vous y retournez presque chaque année, ça veut dire que vous connaissez ce pays comme votre poche, sauf, vous me le disiez tout à l'heure, cette région d'Amazonie, vous connaissez Iquitos quand même, qui est la grande ville de cette région oui. amazonienne, mais beaucoup moins, enfin vous la connaissez, mais vous n'êtes jamais allé dans cette région, pourquoi ?
Parce qu'à l'époque, je travaillais dans des projets agricoles concernant la pomme de terre. Or, la pomme de terre, ça se cultive en altitude, entre 2000 et 4000 mètres ou plus, mais pas dans les régions, ou très peu dans les régions basses amazoniennes, qui sont des régions trop chaudes pour un tubercule comme la pomme de terre qui est bourrée d'eau. Donc, nous n'avions pas de programme dans cette zone-là, en tout cas. On avait un petit programme dans une autre zone semi-amazonienne, mais ça fait que, pour cette raison, j'y suis pas allé. Pour une autre raison, c'est que j'ai vécu là-bas au temps du Sentier Lumineux et de ces régions qui étaient très infestées par les producteurs de feuilles de coca et ensuite les trafiquants qui exportaient, enfin qui transformaient la feuille et ensuite l'exportaient vers la Colombie. Et ces régions-là étaient pas très sûres pour les étrangers. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers et d'autres personnes qui se sont fait tués dans ces zones. Donc c'était pas vraiment recommandé d'y aller. En plus, il n'y avait pas vraiment d'attraction touristique à l'époque. Maintenant, il y en a un peu plus bas. Mm-hmm. Mais Iquitos, oui, parce que Iquitos, c'est une ville étrange qu'on peut atteindre que par l'avion. Et Iquitos n'était pas véritablement touché par, à l'époque, par les trafics de drogue.
C'était une région qui était mal vue, toute cette région est du pays, est-nord-est, quand on est de Lima ou quand on est des Andes.
À cause de ça, oui, c'était très mal vu, le haut Huallaga, qui est plus au sud, mais enfin qui débouche finalement sur Moyobamba, était très, très mal vu. Enfin, il n'y a personne qui allait là-dedans, sauf l'armée, il faut le dire, et la guérilla. Il n'y avait pas question d'aller là-bas. Moi, j'ai un étudiant qui avait fait un travail, mais il en est ressorti, mais il était tremblant quand il est revenu. Il s'est fait menacer de tous côtés.
Alors, pour Stephen Herzog, apparemment, ça s'est bien passé. On va le rejoindre, si vous êtes d'accord, Claude Auroy. On va le rejoindre dans ce jardin de cette femme qui l'accueille, Hélène Colong. Il est avec un autre Suisse, qui est le dessinateur genevois Tom Tirabosco, qui l'accompagnait, Stephen Herzog, pendant ce voyage, et qui sera notre invité demain. Donc on vous retrouve, Stéphane, devant la maison d'Hélène Colong, cette ethnologue française qui a fondé, donc, il y a 12 ans, avec son mari péruvien, Carlos Palomino, une association qui s'appelle Icama Pérou. On a mis un lien sur notre site internet et qui s'occupe de reforestation et de protection des singes qui sont en voie de disparition dans cette région.
Bonjour. Moi, c'est Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Tom.
Bonjour Hélène.
Ça va ? Un long voyage, hein ?
Oui.
Pas trop fatigué, ça va ? Ça va ?
Ça va bien, ouais. On était un peu arrêté sur la route parce qu'il y a des glissements de terrain.
C'est le Pérou, ça, hein ? Les glissements de terrain, et encore, c'est pas ce qu'il y a de pire.
Ok.
On a beaucoup d'animaux qui viennent d'arriver, qui ont été confisqués sur les marchés. Alors on a été obligé de faire venir une jeune fille de Lagunas, donc on est toutes transformées en maman de substitution.
Voilà les bébés là, qui sont en train de prendre le soleil avec Diana.
Ah, on arrive tout de suite, on voit tout de suite des singes.
On bouge pas trop, voilà. Alors ils sont
tous les trois très malades, ces trois nourrissons. qui sont donc immunodépressifs parce qu'ils ont perdu leur maman à un âge beaucoup trop jeune. Ils n'ont pas les antibiotiques qu'il y a dans le lait maternel. Donc ils attrapent tout ce qu'on peut imaginer, des infections et tout. Et on a un bébé singe laineux queue dorée qui est une des 20 espèces les plus menacées au monde. Donc il n'existe que dans la forêt de nuages, à cet endroit-là du Pérou. Et jusqu'à une enquête plus approfondie, ils sont 250 à l'heure actuelle. Cette année, il y en a 18 qui ont été tués. Et voilà un des bébés qui ne survivra pas, puisqu'elle a déjà une espèce de petite paralysie, etc. Alors on est là en train d'appeler les plus grands vétérinaires de Hollande, de France, de partout, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire face à un problème comme ça. Ben, personne ne sait. Personne ne sait parce que personne ne connaît vraiment leur physiologie et les problèmes qu'ils ont. Donc voilà, on est très, très triste et très démunis. Et ça nous met encore plus en colère, évidemment, contre toute cette affaire de trafic. Et jusqu'à présent, ils ont été protégés parce que c'est un territoire qui était inaccessible, du fait que ce sont des montagnes très, très pointues, jusqu'à 2000 mètres. Et là, il y a une vague de migration qui vient justement des montagnes et qui ne laisse pas un centimètre carré sans... Vous trouvez au cœur même de la forêt primaire, vous trouvez des champs de maïs. Et c'est ce qui est arrivé à la maman de cette petite queue dorée. C'est-à-dire que les animaux descendent dans les champs de maïs et donc les paysans migrants qui connaissent en fait pas très bien ni les écosystèmes ni la valeur des animaux qu'il y a sur place, bah, se disent ça économisera le poulet de midi, quoi. Donc vous imaginez.
Il tire dessus.
Il tire sur la mer et en plus le petit peut se vendre éventuellement comme animal de compagnie. Alors ça fait de très mauvais animaux de compagnie, ça, parce que quand ils grandissent, faut pas les avoir dans votre cuisine, hein, parce que ça fait des dégâts.
Donc là, qui est le pelage noir, un petit peu.
Elle a un pelage caoba, un pelage extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir cette couleur-là de cheveux. Elle a un pelage qui est au soleil.
Un peu comme vous, en fait.
Elle a un pelage vraiment auburn, qui est absolument scintillant dans le soleil. Alors les mâles, ils sont que dorés, donc effectivement, ils ont une grande mèche jaune dorée au niveau des parties génitales, et tout le dessous de la queue est jaune doré aussi. Donc ça fait un animal extraordinaire. Dès qu'il y a un rayon de soleil dans la forêt de nuages, c'est... assez surprenant.
Et alors l'autre singe, c'est...
Alors les autres sont des singes laineux, mais ce qu'on appelle les singes laineux qui sont beaucoup moins... Enfin, moins... Ils sont également vulnérables, bien sûr, mais ils sont moins en danger que celui-là. C'est une des 20 espèces les plus menacées au monde. Et vous n'en verrez dans aucun zoo du monde. Je peux vous dire que ça, c'est le singe laineux que vous allez voir. On en a un adulte aussi sur la réserve. Vous n'en verrez pas à 36 000, hein. À moins de rentrer en marchant des jours et des jours entre les montagnes, dans la forêt, où vous avez peut-être la chance de voir très rapidement passer dans la canopée un groupe avec la couleur caoba. Mais c'est des animaux qui sont pratiquement jamais vus dans aucun zoo. Hein.
On est dans la maison d'Hélène. Il y a une cage en fait faite en corde. Et puis là, il y a Diana, voilà, qui a deux petits singes dans les bras. Et ils sont donc minuscules. C'est des singes qui ont été trouvés en fait confisqués sur des marchés. Et puis voilà, on vous donne à écouter. Pour un tram, pourquoi tout non? ¿Tienen nombres? ¿Un nombre?
¿Esto? Uwanch y Chiham.
¿Y cuántos años tienen?
¿Ellos?
Sí.
No sé. Tendrán meses por ahí.
¿Un mes? ¿Y tú cuánto tiempo pasa con este monos?
Bueno, yo lo paso todo el día lo ves con ellos.
¿Ah, sí?
Ah, sí, sí. Estoy encargada de cuidar a los chiquitos.
Ah, donc Diana dit qu'elle passe toute la journée avec les tout petits singes qui ont peut-être un mois, comme ça. Et voilà, c'est son boulot de veiller après eux. Alors elle les tient, il y en a un qui s'accroche à son sein, il y en a une autre qui est sur ses cuisses, et puis elle les caresse, elle s'en occupe bien. Tu es comme la mama de los monos.
Sí, sí, a la vez como sus mamas para ellos.
¿Y te gusta? ¿Te gusta trabajar?
Sí, me gusta mucho. Son bien, bien tiernitos, ¿no? Como son como unos bebitos para mí.
Ah. Elle dit que c'est un peu comme ses bébés. Mais tu, tienes tu niños?
No tengo, pero bueno, a lo menos se parecen como los bebitos.
¿Y dónde es tu familia? ¿Dónde es? ¿Es en Lagunas?
Ah, de Lagunas. Yo soy de Lagunas. Mi papá no es natural de Lagunas, es natural de la zona de San Martín. Y mi mamá sí es de Lagunas, pero todos vivimos en Lagunas.
Voilà, toute sa famille vit à Lagunas, est de la selva.
Sí, mi mamá es de la selva, pero mi papá no. Él es de San Martín.
Ah, donc sa mère est de la forêt et son papa est de San Martín.
Mm-hmm.
Mm. Y tu madre es Cocama.
Ah, sí, pertenece a esa era.
Ah, donc sa mère est indienne Cocama. Y tu padre?
Él no. No. No.
Es mestito ou...
Non, le sait de mieux.
Moi, je lui demande si son papa est métis, elle dit qu'elle ne sait pas quoi. Et tu, puedes hablar Cocama?
Non, c'est tanto, non, non, me acuerdo. Algunito me han enseñado, pero non, non, me acuerdo. Que significa?
Sí. Et comment se dice los monos en Cocama?
Ah, non, le sait, me han dicho, pero non, sait, non, me acuerdo.
Donc elle dit qu'elle se souvient pas de comment est-ce qu'on dit les singes. Et comment se dit c'est bon dia?
Ah, tampoco no me acuerdo. O sea, no me acuerdo nada. Ah, tenía un cuaderno así lleno de esos, pero no me acuerdo todavía. Ah.
Donc elle se dit qu'elle connaît pas, elle se rappelle pas en fait de la langue. Mais tu maman, sabes hablar?
Ella sí lo habla un poco, pero tengo una abuelita, ella sí todito lo habla así, en Cocama.
Donc sa maman, elle sait le Cocama. ¿Se puede tocar? Mmh. On touche les petits singes, ils sont tout doux, ils sont tout petits. Ils font un petit peu pitié comme ça, parce qu'ils sont séparés de leur mère qui a été tuée. Et puis, Diana a un nounours pour les rassurer. Voilà. Et il y a une petite couverture par terre où c'est marqué bébé. Ok, alors je suis avec Hélène dans sa cuisine, dans cette maison qui fait un peu out of Africa, comme ça, assez extraordinaire, avec des bambous, avec un sol en pierre magnifique. Comment c'est de vivre ici à Moyobamba, qui est un endroit assez particulier, assez reculé aussi?
Oui, ça c'est vrai que c'était encore bien plus reculé quand on est arrivé il y a 10 ans, où il y avait une piste que tu empruntais, tu arrivais couvert de poussière dans un endroit où il y avait quelques boutiques qui vendaient, je te dis, de la sauce tomate et du papier hygiénique, c'est à peu près tout ce que tu pouvais avoir comme confort à l'époque. Mais on n'est pas venu par hasard à Moyobamba. Moyobamba, c'était une ville coloniale magnifique, il y a un grand fleuve, et puis surtout, il y a les communautés Jivaro, les communautés Awaroun. Alors là, bon, je me suis dit, allez, on part tout de suite. Et à Moyobamba, on s'est retrouvé donc avec une petite population, une petite ville, où tu avais encore un parfum des temps anciens. Tu avais encore quelques caballeros avec les grands chapeaux qui se découvraient à ton passage. C'est extrêmement agréable. Tu avais toutes ces vieilles dames qui soignaient leur jardin avec un amour. Et j'ai rencontré plein de ces vieilles dames en leur disant « Oh madame, vous avez un jardin magnifique. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est que cette plante-là ? Mais ma fille, mais rentre, mais viens voir. » Alors, une hospitalité, une gentillesse. J'ai été vraiment... assez bouleversé par cet accueil parce que c'était l'ancien Moyobamba. Et c'était le Moyobamba qui durait après la construction de la route. Et cette route, elle devait amener eh bien, le changement avec tout ce que tu peux imaginer, les bons côtés. Hein. Donc maintenant, tu as des meilleurs restaurants, tu as autre chose que du papier hygiénique et de la sauce tomate. Mais il y a tout un aspect d'un art de vivre, d'une hospitalité qui ont totalement disparu. Puisque avec l'immigration, est venu vraiment, tout ça est venu motivé par une politique, par un contexte global qui est celui du profit, dans lequel la forêt est un obstacle, donc on détruit tout, on en tire un maximum d'argent, et puis quand il n'y a plus rien à en tirer, ben on part ailleurs pour refaire la même chose. Donc ça, c'est l'aspect difficile à supporter, le fait d'assister à une destruction dans laquelle on reste très impuissant, naturellement.
Mais alors, comment ça se passe pour toi, en fait ?
Disons que le départ, pour moi, a été extrêmement difficile. Tu as une réaction d'Européen, hein, on appartient à une culture, on est quand même beaucoup déterminé par ça aussi, une réaction d'indignation, de se dire, mais ce sont des mafias qui mènent tout ça, il n'y a pas de véritable protection, c'est scandaleux. Donc si tu passes une phase comme ça d'indignation, où tu t'agites énormément, où tu fais beaucoup rire d'ailleurs, parce que tu t'agites alors que personne ne le fait. Et là-dessus, je veux dire que Carlos m'a beaucoup aidé, parce que au Pérou, l'agitation, l'excitation, l'indignation, ça ne mène nulle part.
Donc Carlos, c'est ton mari, donc. Oui. Comment est-ce qu'il t'a aidé à vivre en fait cette présence ici ?
Eh ben écoute, moi ça a été en le regardant simplement. Lorsque on se retrouvait sur un marché avec de la viande de brousse partout, des gens en train de vendre des singes, etc. C'est vrai que ton premier réflexe comme Européen, c'est de t'indigner, de dire mais c'est pas possible. Vous savez bien que c'est illégal, etc. Et tu voyais Carlos à côté de ça, qui restait extrêmement gentil, extrêmement calme, qui allait voir les gens et qui parlait avec eux. Et petit à petit, il leur donnait quelques idées qu'ils n'avaient même pas soupçonnées. Et donc, ça, c'est vraiment une leçon, parce que tu ne gagnes jamais les gens en t'opposant à eux, mais toujours en essayant de se te mettre dans leur peau, de comprendre pourquoi ils font ça, parce qu'ils ignorent, parce qu'ils en ont besoin, etc. Et puis toi aussi, tu dois être un exemple. Tu dois être capable de montrer que tu peux montrer une autre manière d'être avec les animaux, mais pas seulement avec les animaux, parce que tu comprends, être passionné par les animaux et mépriser les gens, ça ne va pas non plus. Tu sais, c'est une population qui est très, très, très mêlée maintenant à Moyobamba. Hein. Tu as les anciens de Moyobamba, donc je garde une affection particulière, donc surtout pour mes amis Jibaro, où j'ai créé des liens très, très forts parmi eux. Ensuite, il y a toutes ces dames et leurs jardins qui sont un enchantement pour moi, que je continue à visiter régulièrement. On échange des plantes ensemble, on se raconte des tas d'histoires, c'est très intéressant. Et puis, à travers le projet, on a eu des jeunes de Moyobamba qui sont venus voir le projet. Tu as Blanca ici qui travaille avec nous depuis un certain temps. Et donc, eux, ils sont une espèce d'oxygène, de fenêtre sur un peu l'espoir de la façon dont les choses vont commencer à bouger. Donc beaucoup de jeunes qui sont venus sur le projet nous ont permis de créer des liens avec d'autres gens avec lesquels on n'était pas forcément en relation avant, tout ça.
Donc dans ce qu'on peut appeler peut-être une croisade, hein, puisqu'il y a des forces en jeu qui sont immenses, tu as des amis en fait, il y a des soutiens ici, c'est pas seul en fait face à l'adversité. Hein.
Oui, il y a des soutiens certainement, mais enfin les moments de solitude sont nombreux quand même, hein, parce que même si tu bénéficies d'une certaine sympathie, ça reste une sympathie qui est assez abstraite, c'est-à-dire que oui c'est bien, ce qu'ils font c'est bien, mais de là à ce que les gens véritablement s'investissent, ou que tu puisses, si tu veux, vraiment communiquer ce que tu ressens en profondeur, moi il n'y a que les Jivaro, enfin que ces amis femmes Jivaro avec lesquelles je communique réellement sur la nature et sur les animaux, il n'y a qu'avec eux.
Si tu as un coup de blues, bon, il y a ton mari, bien sûr, mais c'est aussi vers les Jivaro que tu vas pouvoir échanger.
Avec certaines femmes Jivaro qui sont mes amies, oui, avec elles, on est immédiatement, on se comprend tout de suite, qu'il s'agisse d'animaux, qu'il s'agisse de nature, de plantes. Je peux leur raconter ce qui s'est passé, la façon dont les animaux ont joué ou ce qui s'est passé, etc. Elles sont immédiatement intéressées.
Est-ce qu'ici, eu égard au combat que vous menez, enfin si on peut appeler ça comme ça, est-ce que tu t'es senti déjà en fait en danger à Moyobamba ou à Tarangé ou dans ton travail ici, vraiment physiquement en danger ?
Oh, non, ce serait exagéré de dire qu'on a été en danger. On peut se faire insulter, on peut se faire recevoir des menaces, des choses comme ça, mais non, se sentir véritablement en danger, non. Non, non. Maintenant, il est évident que le jour où on va être véritablement sur le chemin, par exemple, des forestiers, hein, là, on sait très bien qu'il va falloir être extrêmement Si tu veux, notre action, elle est à la fois plus modeste et elle est, je pense, plus en profondeur. Parce que s'affronter comme ça de face aux forestiers, c'est du suicide. Hein, on a eu des amis qui ont été ingénieurs forestiers qui ont dû quitter leur poste parce qu'ils avaient des menaces de mort. Et en Amazonie, les menaces de mort, c'est à prendre absolument au sérieux. Hein, ça, on ne plaisante pas. Donc, nous, on travaille davantage, si tu veux, on travaille beaucoup avec les médias. Une population de migrants instable, tu ne peux pas vraiment travailler, forger des choses à long terme. Donc on a choisi la voie des médias. On est présent sur la télévision, on est présent à la radio, physiquement, Carlos et moi, mais aussi on fait énormément de spots. Et donc avec les spots, tu touches des 10 000, 20 000 personnes, et tu touches même des colons qui sont dans les zones de colonisation, où ils sont encore en forêt, où ils sont face à des animaux dont ils ne connaissent pas l'importance, en particulier bon, le singe des nuages dorés, le titi des Andes, le l'autus myconax, tous ces animaux-là, ils ne les connaissent pas. Et si tu veux, ils les tirent pour donner à manger à leurs chiens. Donc que ces gens-là prennent conscience de ça à travers la télévision ou à travers la radio, de ce point de vue-là, ce n'est pas un travail dangereux. Hein. Par contre, là, nous allons entamer un nouveau projet. Et je pense que là, il va falloir, ça concerne, si tu veux, des intérêts beaucoup plus importants, des territoires beaucoup plus vastes. Et là, je pense qu'il faudra être très attentif.
Ikama Pérou, c'est le nom de cette association qu'a créée et que dirige encore Hélène Colong. Elle a une chance de faire entendre sa voix, selon vous ?
Alors, je pense que la chance ou l'opportunité qu'ils ont, c'est vraiment d'agir au niveau local. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent en avant. C'est-à-dire oublier les grandes campagnes internationales qui en fait se perdent un petit peu dans le vide et agir auprès des populations directement avec des spots, avec des pancartes, en allant directement sur les marchés et expliquer en fait qu'un singe et certains singes rares ont une énorme valeur pour le pays, pour le Pérou, et c'est petit à petit qu'ils parviennent à avoir un impact sur la population. Donc je pense que oui, c'est très important en fait que ces gens soient là et se débattent. Cela dit, ils ont choisi un des endroits les plus difficiles au monde pour aller justement parler de reforestation.
Et les plus dangereux, puisqu'on parle de mafia quand même.
Voilà, alors Hélène explique très, très clairement que c'est une région où il y a du trafic de coke notamment, de pâtes de coca et trafic d'arbres rares. Donc il ne faut pas aller directement s'interposer devant les coupeurs d'arbres en forêt, parce que là, on risque de se faire tirer dessus. Donc c'est une action qui doit être douce, concertée, parfois avec la police, parfois avec l'Institut national des ressources naturelles. Et effectivement, il faut faire attention là-bas, passer un petit peu le Far West là-bas.
Ivaro ! Ivaro ! Ivaro ! Ivaro ! Thank you.
C'était Ima Sumac, cette dame qui chante. Elle s'appelait Rivaro Givaro, qui est un nom pas correct d'ailleurs. Claude Auroi, on le disait pendant la chanson, parce que ça vient, c'est les Espagnols hein, qui ont appelé les Indiens là-bas. Rivaro, oui. Ça veut dire barbare, ça veut dire.
Oui, oui, réducteur de tête. Mm-hmm. Donc les petites têtes qu'on voit dans les musées, c'était une spécialité Givaro. Il y a beaucoup de missionnaires qui ont fini comme ça. Mais les Givaro eux-mêmes s'appellent les Chouars, côté de l'Équateur, et les Awarunas, du côté du Pérou. Mais ils sont fédérés, c'est devenu un groupe indien très combatif et qui est assez bien organisé. Mmh.
Par-delà les frontières.
Par-delà les frontières en plus, oui. Mmh.
On en parlera d'ailleurs mercredi avec un spécialiste, un anthropologue qui vient de Genève, qui est péruvien lui-même, qui viendra nous parler des Awarunas. Et avec aussi le troisième feuillet du carnet de route de Stéphane Herzog, où il rencontre une femme Givaro, une femme Awarunas, dans la région de Moyabamba, où on est pour ce premier carnet de route. Vous l'avez entendu, Claude Auroi. Je rappelle, vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Vous êtes spécialiste du changement politique, social et économique en Amérique latine. Vous êtes un spécialiste et un amoureux du Pérou, un pays dans lequel vous vous rendez depuis 34 ans, où vous avez vécu durant 4 ans, vous avez enseigné, vous avez eu des contacts avec les jeunes péruviens, vous avez développé des projets agricoles, vous y retournez presque chaque année. Une réaction peut-être à ce reportage ?
Oui, il y a l'aspect extraordinaire de cette femme, donc Hélène Colomb, qui veut sauver des singes et qui est toute petite face à, quand on connaît le monde, effectivement des forestiers, mais aussi des chercheurs d'or, et en fait toute la population qui, au fond, c'est pas la préoccupation première, les animaux et surtout pas les petits singes, et qui pense qu'il y a bien assez de forêt encore pour que les petits singes puissent se développer. C'est disons dans un sens remarquable, et en même temps on a l'impression que c'est David face à Goliath, et on ne sait pas très bien ce qui peut en advenir. Quand elle a parlé peut-être enfin plutôt d'action avec d'autres organismes, je crois que cette lutte pour l'environnement au Pérou, il faut la faire avec les organismes de l'État, il faut pas aller tout seul, je crois. Je ne la condamne pas, hein. Je crois, mm-hmm, que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, et puis en fait c'est pour la bonne cause. Mais je dis, il y a l'Institut National des Ressources Naturelles du Pérou qui maintenant quand même existe partout et qui a une prégnance partout dans les région du Pérou et qui est là, et c'est avec ces organismes et des grandes ONG comme Oxfam et autres qu'il faut travailler, parce que là il y a des moyens beaucoup plus puissants que d'aller avec 3 affiches sur un marché, mm-hmm, où en plus on risque effectivement de prendre un mauvais coup.
Cette association, donc ICAMA Pérou, mais je crois qu'elle travaille quand même en lien avec d'autres organismes. On sera mercredi sur un marché de brousse, et je crois qu'ils dénoncent régulièrement certains vendeurs ou certains chasseurs, mais ils ont des liens avec la police. Vous qui justement avez contact avec les jeunes péruviens, sur cette jeunesse péruvienne, comment est-ce que vous percevez son travail et son approche? Elle l'avoue elle-même, d'occidentale, d'européenne, quand elle dit, ben voilà, d'abord il y a l'indignation, puis je me rends compte que ça mène à pas grand-chose. Comment est-ce que vous, qui êtes aussi un Européen, qui êtes aussi un occidental, qui connaissez très très bien ce pays, vous réagissez par rapport à cela ?
Bah, je ne sais pas si justement après 35 ans ou plus on devient blasé, mais ce genre d'aventure, je l'ai vu tellement de fois. J'ai vu des jeunes filles qui prenaient un tableau au noir et qui voulaient aller dans des bidonvilles pour apprendre aux gens l'espagnol, alors qu'il y avait quand même des écoles. Mais elles pensaient que c'était ça l'objectif, qu'en fait il fallait se fixer et qu'elles se fixaient. Il y a des gens qui veulent sauver des enfants parce que c'est l'enfant qui les intéresse. Il y en a qui s'intéressent aux singes, il y en a qui s'intéressent aux orchidées, et il y en a qui s'intéressent encore à autre chose. Donc il y a quand même chez l'Européen qui fait ça, je dois dire très franchement, une autosatisfaction à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une cure pour lui-même. C'est-à-dire une thérapie, une autothérapie qu'on remarque chez ces gens-là. Et de nouveau, je ne condamne pas ces gens-là du tout, parce que moi aussi, j'ai
Vous pas, avez aussi non, été j'ai pas fait fasciné. Cette démarche,
non. Oui, j'étais fasciné par le Pérou, mais comme je suis un intellectuel, j'étais fasciné par le Pérou, sa civilisation antique. Moi, j'ai travaillé dans la réforme agraire au début, donc j'étais par le changement social. Donc je prenais les choses beaucoup plus au niveau macro. Par contre, j'aurais été incapable de commencer à faire un petit projet dans un coin. Mais j'en ai vu des projets fantastiques avec des enfants. Il y a Fernande Blanc qui vient de Lausanne, qui a fait un travail magnifique. Madame Ramseyer, tous ces gens ont fait effectivement un travail extraordinaire. Et il faut les saluer. Mais moi, je pense que le Pérou ne s'en sortira que si le Pérou se mobilise sur un certain nombre de thèmes, dont celui de l'environnement, puisqu'on est là-dedans, mm-hmm. et coordonne toutes les actions de toutes ces ONG et de l'État, et puisse passer des lois applicables contre la déprédation qui, effectivement, est forte.
Alors, on va voir tout à l'heure, effectivement, ce que fait l'État sur ces questions environnementales. Tout d'abord, pour revenir sur un ou deux éléments du reportage qui étaient soulignés par Stéphane Herzog, il parle de ces colons, de ces migrants qui descendent des montagnes, qui descendent des Andes et qui vont s'installer sur la frontière amazonienne de l'Amazonie, disons, puis qui progressivement entrent dans les terres. Qui sont ces gens ?
C'est des paysans d'en haut, c'est des paysans de... C'est les paysans de Savièse qui descendent à Sion. J'admire beaucoup les Valaisans, il ne faudra pas prendre ça comme
vous allez vous faire plein d'ennemis.
Ou du Val d'Anivier qui descendent. C'est-à-dire c'est une espèce de transhumance, parce qu'on peut comparer effectivement ce mouvement, parce qu'il n'est pas définitif. Les Indiens qui descendent gardent très souvent... pratiquement toujours des terres dans leur communauté d'origine. C'est des grandes familles et certains descendent dans la forêt pour cultiver du manioc, de la coca et d'autres produits, du café par exemple, dans les régions où le café est fort, comme dans cette région-là. Mais souvent gardent des liens avec leur communauté de départ. C'est des gens qui voyagent beaucoup, qui vont aussi dans les grandes villes, qui ont des contacts. Donc c'est des espèces de migrants internes qui sont rarement très stabilisés à un endroit. S'ils se stabilisent, c'est que vraiment, ils ont fait fortune, si entre guillemets, mais ils ont réussi à trouver quelque chose qui les attache. Mais comme dans ce reportage, le père de cette dame qui parlait, là, je crois que c'était Blanca, donc qui venait de Saint-Martin, une région plus haute, et qui est resté là, mais on comprend aussi qu'il est resté là pour une femme. Donc il a trouvé une femme et les femmes indiennes des régions basses, donc pas indiennes des hauts plateaux, mais indiennes des régions basses, souvent sont très fidèles à leur région et ne veulent pas bouger.
Et donc, ces colons qui descendent, s'installent, ce sont eux qui sont pour une part responsables de la déforestation.
Oui, c'est une c'est un système qui s'appelle l'agriculture sur brûlis, on appelait ça. Donc on brûle, on plante, et puis 2-3 ans après, le sol est devenu... la fertilité du sol a beaucoup baissé, donc on va ailleurs. Et seulement ce modèle-là, qui était au début, donc dans les années 20, 1920, etc., relativement mineur et pas de masse, il est devenu effectivement très très fort. Et alors, à ce moment-là, ça commençait à faire des dégâts beaucoup plus sérieux.
Pour quelle raison ? Pour quelle raison est-ce qu'il a pris de l'ampleur, ce mouvement ?
Parce qu'il y a eu le taux démographique de développement des populations indigènes d'altitude est devenu extrêmement fort, 2-3%. Bon, maintenant, il a baissé, mais il était extrêmement fort dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les gens ne trouvaient pas de travail. Donc, beaucoup sont partis à Lima, dans les villes, mais un certain nombre ont joué aux colons et sont partis. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à cette région dont on s'occupe maintenant. C'est tout le Piémont, donc tout le pied des Andes, depuis la Colombie jusqu'en bas en Bolivie, c'est-à-dire en bas, mais c'est le sud, donc connaît ce phénomène, cette colonisation qu'on peut appeler sauvage, de petits producteurs. À côté de ça, bien sûr, les dégâts sont aussi faits par les grandes compagnies qui elles, ont des grandes concessions.
Et qui elles vont chercher quoi ? Alors, il y a du pétrole, il y a de l'or, qu'est-ce qu'il y a dans ces régions amazoniennes ?
Bon, il y a surtout effectivement du pétrole, du gaz. Beaucoup, le Pérou a développé beaucoup l'extraction du gaz, mais plus du côté de Cusco, donc un peu plus au sud de la région dont on parle. Enfin, quand je dis un peu plus, c'est toujours à peu près 1000 km. Hein, parce que le Pérou, il ne faut pas oublier, c'est quand même 2,5 fois, c'est 1,5 fois la France. Hein, c'est 3 fois la France, si vous voulez. Donc c'est énorme. Et ces régions amazoniennes sont très peu... Actuellement, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas de route. Il y a des pistes et quand il pleut, ben, vous ne passez pas. Donc c'est encore des régions pratiquement comme on disait dans le reportage, je dis toujours ça, c'est un Far West. Et c'est vraiment un Far West et c'est difficile d'y entrer. Alors qui défriche ? Ben, c'est les forestiers, donc ceux qui extraient du bois. C'est des grandes compagnies canadiennes, nord-américaines, etc., qui ont des concessions et qui font de la taille sélective, c'est-à-dire ne rasent pas forcément tout, mais cherchent les essences qu'elles veulent. Et l'année passée, j'étais dans une région de ce type-là, au Pérou, et j'ai demandé s'il y avait encore beaucoup d'acajou. On a rigolé, on a dit, mais l'acajou, il n'y en a plus depuis 10 ans. Mmh. Moi, c'est la première chose qu'ils ont pris. Alors maintenant, il reste des bois de deuxième ordre. Donc, ça, effectivement, ça fait des dégâts. Ce n'est pas forcément qu'on rase tout, parce que les 17% de défrichement de l'Amazonie, il faut bien savoir quand même que c'est beaucoup le Mato Grosso. Hein, c'est donc, la région du Brésil. Et là, oui, on défriche et on met du bétail. On ne fait pas ça au Pérou. Donc, c'est un modèle différent de colonisation et d'extraction du bois.
Comment ça se passe pour l'extraction du pétrole, par exemple ?
Il y a des prospecteurs qui viennent, ils repèrent où il y a du pétrole, et puis après, ils vont voir à Lima le ministre des Mines, qui leur donne une concession. Puis après, ils reviennent, ils disent aux habitants, on va forer des puits, et là commence le problème, parce que les habitants, ils disent, mais on ne nous a pas mis au courant, qu'est-ce qui se passe, combien on va toucher nous, etc. Et on vous veut pas, et il y a beaucoup de conflits comme ça qui se développent. Parfois, ils se résolvent quand comme sur le gaz, par exemple, il y a très forte opposition, mais les compagnies ont payé. Alors maintenant, il y a pas mal d'argent quand même qui va vers les régions autonomes, vers les gouvernements régionaux et vers les populations, jusqu'au point où il y a tellement d'argent dans certaines régions, j'ai vu ça dans le sud aussi, où le gouvernement régional ne sait pas que faire de l'argent. Parce qu'on lui donne l'argent et puis on lui dit « allez, faites des routes ». Il dit, mais moi, il n'y a pas d'entreprise dans cette région. Il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de caterpillar. Il n'y a pas de bulldozer. Je vais les chercher où ? Ah, bah, allez les chercher à l'étranger ou à Lima, peut-être, si vous les trouvez. Donc, au fond, on ne se décolonise pas, on se recolonise d'une autre manière. Et il y a un énorme problème de capacité de gestion, de management et d'investissement dans les régions actuellement au Pérou. C'est un des problèmes numéro un.
Vous parliez du Far West. C'est le Far West, c'est l'Ouest lointain pour Lima, la capitale. Oh. C'est aussi le Far West au sens. Organisation ou désorganisation au sens anarchique aussi du
terme. Oui, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément de l'anarchie, si vous voulez. C'est chacun essaye de faire son trou et, par exemple, vient et décide d'acheter un terrain. Et puis, il va acheter ce terrain. Et tout à coup, il va voir que, en fait, ce terrain appartient déjà en partie à quelqu'un d'autre. Une communauté indienne ou un autre propriétaire, des petits propriétaires qui sont partis ailleurs, mais qui ont peut-être un titre. Et de nouveau, on entre dans des conflits. Donc, pour stabiliser quelque chose, c'est très, très difficile au Pérou. Et c'est ce qui fait que le développement est très lent, parce qu'il faudrait avoir des bases juridiques très, très fortes pour pouvoir commencer à créer quelque chose. Or, c'est une mouvance perpétuelle et de tous ceux qui ont envie de sortir, d'extraire les richesses de cette région-là, qui reste une des régions dans le monde, encore vierge, c'est beaucoup dire, plus beaucoup de vierges dans le monde, mais qui reste difficile, qui a beaucoup de richesses, mais où c'est du darwinisme social, c'est celui qui s'imposera, qui arrivera à sortir quelque chose.
Un système prédateur.
Alors, c'est totalement prédateur, absolument prédateur.
On va écouter un peu de musique Claude Roy. C'est Nathalie Schoenberg qui a choisi quelques disques pour cette semaine. Susana Baca.
Oui,
forcément.
Magnifique, superbe.
On écoute.
Un dromadaire sur l'épaule, ça, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça peut donner, vraiment.
Cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las
africain, on en parlait avec vous.
Oui, afro-péruvien.
Afro-péruvien. Mm-hmm. Ça s'appelle Caras Lindas. Mm-hmm. Et ça parle de quoi, Claude Roy?
Susana Vaca est d'origine afro-péruvienne et elle parle du peuple noir qui travaillait dans les plantations de sucre. Et elle dit, nous sommes la mélasse, parce que la mélasse, c'est résidu de la canne, qui pleure ou qui rit. Mm-hmm. Donc c'est très joli.
On est au Pérou, toute cette semaine, dans cette région du nord-est du Pérou. Le Pérou, qu'on surnomme aussi le tigre de l'Amérique latine à cause de sa croissance à 7-8%, à cause d'une croissance qui tient principalement aux ressources, notamment minières, de l'or, du pétrole, du bois immense. On en parlait avec vous, Claude Roy. D'un côté, on a cette richesse. De l'autre côté, on a le Far West. On a l'absence de réglementation qui permettrait une redistribution équitable, développement des infrastructures. Alors, on imagine bien pourquoi ça ne fonctionne pas, mais comment est-ce que ça pourrait fonctionner mieux ?
Bon, il y a eu quelques efforts quand même. Il y a eu une loi de décentralisation. Donc maintenant, beaucoup des redevances des compagnies minières et d'extraction vont aux communautés mêmes. C'est déjà un bon point, mais comme je dis, il faut maintenant former les gens sur place et donner des capacités pour que cet argent puisse être utilisé pour le développement local. Donc c'est nécessaire. D'autre part, c'est un modèle quand même fragile parce que tout dépend maintenant de la demande internationale, donc de minerais, donc essentiellement beaucoup la Chine, les pays asiatiques. Si la conjoncture se dégrade, tout le miracle risque de retomber, comme à travers les siècles au Pérou, il y a eu des booms de plusieurs matières qui ensuite sont tombées et on s'est trouvé sans argent. Donc il faudrait essayer de créer des fonds qui sont investis dans d'autres ressources afin de maintenir un système qui soit durable, si on veut. C'est donc un énorme effort au niveau de l'organisation. Et puis, comme je dis, le problème quand même des concessions et des conflits territoriaux, il n'est pas réglé. Par exemple, il est aussi très fort sur l'eau dans les Andes. Il y a des conflits terribles entre les mines et les communautés indigènes, parce que les mines polluent les rivières d'une manière absolument épouvantable. Même si elles ne voulaient pas le faire, le système même fait que c'est la lixiviation est un système d'extraction maintenant qui est très violent et qui suppose également beaucoup d'eau et ça détruit des paysages entiers. Donc là également,
c'est quoi comme procédé?
C'est bon, donc avant vous faisiez des trous dans la montagne, vous faisiez des galeries, vous alliez extraire des filons d'or ou autre. Maintenant vous faites sauter la montagne, vous mettez des explosifs et vous faites sauter des pans entiers. Et après, vous mettez tout sur des camions, vous amenez ça dans une usine et c'est là que vous traitez. C'est-à-dire vous séparez toutes les matières et donc vous pouvez effectivement en recueillir d'autres qu'on peut aussi utiliser. Hein, pas seulement du cuivre, etc. Mais tous les sous-produits de cet endroit-là, vous pouvez les utiliser. Seulement, ça fait des dégâts énormes à l'extraction. Et donc, c'est un système qui est très préjudiciable pour l'ensemble de l'environnement. Donc, il faut également réussir à contrôler ça. Et je crois que, il y a plusieurs méthodes, sans doute, mais les compagnies, elles doivent être forcées à faire des efforts considérables au niveau de l'environnement. Et puis, le Pérou ne fait pas non plus tout pour récupérer quand même la manne. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la Bolivie, elle a passé des lois qui sont beaucoup plus fortes contre les compagnies extractives et qui fait que l'argent, enfin, rentre beaucoup plus dans les caisses de l'État en Bolivie qu'au Pérou.
Qui disparaît dans la poche aussi des politiciens. On sait qu'il y a une corruption quand même assez importante. Un président qui a dû partir au Japon, Fujimori, pour cause de corruption. Enfin, c'est un problème important.
Alors, je ne sais pas si on va parler de ça maintenant, parce que là, j'y serai encore à 5 heures du soir. Oui, si vous voulez, il y a de la corruption, disons-le en deux mots. Mais moi, sur ce thème, je suis beaucoup plus, prudent que d'autres qui amènent ce terme, qui veulent expliquer tous les maux de l'Amérique latine par la corruption. Mm. Je ne crois pas à ce thème, à ce système-là. Il y a beaucoup d'autres choses et ce n'est pas entièrement vrai non plus. Il y a des tas de gens honnêtes au Pérou.
Alors ça... On n'en doute pas. Il nous reste une minute. De quoi est-ce que vous avez l'impression le pays a le plus besoin aujourd'hui, Claude Auroi ?
De know-how, de savoir-faire organisationnel, de discipline à tous les niveaux de l'État, mais aussi de la société civile. Donc, c'est entrer dans une modernité qui est maintenant absolument nécessaire si on veut gérer justement l'environnement, les ressources naturelles et les ressources humaines et les singes.
Merci beaucoup, Claude Auroi, d'avoir passé cette heure avec nous. Vous repartez bientôt au
Pérou ? Je repars en août, oui.
Oui. Oui. Vous allez où ?
Voilà, avec les étudiants, on va faire Cusco touristique. On va voir l'impact du tourisme sur la région du Cusco, Machu Picchu, qui est en train de se déglinguer parce qu'il y a tellement de gens sur les pierres des temples que ça se défait. Et l'UNESCO va leur retirer sa bénédiction s'ils ne font pas quelque chose d'important pour protéger le site.
Eh bien, merci beaucoup. Bonne suite à vous. Bon voyage au mois d'août. Excellent après-midi.
Merci de m'avoir invité.
Demain, on ira sur les rives du fleuve Mayo. C'est là où on va trouver un sanctuaire pour singes que cette association, donc Icama Pérou, a créé sur les rives du fleuve Mayo. Et puis nous serons en direct aussi avec Tom Tirabosco qui a accompagné Stéphane Herzog lors de son voyage, le dessinateur. Il sera là pour nous montrer quelques-uns de ses croquis. Merci aujourd'hui à Samuel Morigenou qui était en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, Nathalie Schoenberg qui a choisi les musiques, Dany Sulam pour notre site dromadaire.rsr.ch où vous pouvez trouver toutes sortes de photos et de liens aussi sur cette semaine péruvienne. Merci à Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Après les informations, rendez-vous avec Histoire vivante de Jean Leclerc qui revient cette semaine sur les mouvements migratoires. Stéphane Herzog, Cyril Desprats, excellent après-midi. Il va être 9h du matin à Moyabamba, 15h sur la première.